Chapitre 3. J'avais des amis, de chers, de fidèles, de merveilleux amis. C'étaient des poètes, des artistes, des contemplateurs de la vie. Ils réjouissaient mon cœur et surexcitaient mon esprit. C'est par eux, c'est en eux que je me sentais vivre réellement. Ils avaient le pouvoir généreux de réveiller mon intelligence, qui sommeille un peu dans la solitude, et de me révéler à moi-même. J'aimais à les réunir souvent, à leur livrer ma maison, et je n'étais jamais si heureux que lorsque je les avais là, autour de moi. C'était comme une belle, comme une ardente flambée dont s'embellissait mon foyer, qui éclairait mon âme, réchauffait mes membres, engourdis de froid. Peut-être dans le bonheur que j'éprouvais de leur présence, cordiale aussi comme un bon vin, se mêlait un sentiment de pur égoïsme. J'avais nettement conscience de leur influence protectrice, de leur utilité morale, et du coup de fouet, dirais-je, qu'ils donnaient à l'activité de mon esprit. Mais si mon amitié n'était pas absolument désintéressée, si elle n'allait pas jusqu'à l'oubli total de moi-même, elle n'avait rien de bas de calculateur et de parasitaire. Je leur étais reconnaissant de la bonne chaleur qu'ils savaient communiquer à tout mon être. Parmi eux, il en était un que je préférais à tous dans le fond de mon cœur. Il s'appelait Pierre Lucet. Je le connaissais depuis l'enfance. Ensemble, nous avions passé bien des défilés dangereux de la vie. Jamais le moindre nuage n'obscurcit le calme ciel de notre intimité. Je ne crois pas que j'eusse aimé un frère comme je l'aimais. Doué de magnifiques dons de peintre, mais toujours arrêté dans ses élans créateurs par une perpétuelle inquiétude, une constance défiance de soi-même, et aussi par les objections sans cesse multipliées et lancinantes d'un esprit critique suraiguisé jusqu'à l'absurde, il avait fini par ne plus peindre. Il me disait, sous l'amertume qu'on entend trembler dans la voix des ratés et des impuissants, oh, « Que veux-tu que je fasse en présence de cette écrasante beauté de la vie ? Copier la nature ? Triste métier auquel ne peuvent s'assouplir ni mon cerveau ni ma main. L'interpréter ? Mais que pourrait être peut-être mon interprétation totalement restreinte à la faiblesse de mes organes, à la pauvreté de mes sens, devant le mystère de ces inaccessibles, de ces incompréhensibles merveilles ? Ma foi, non. Je n'ai pas tant de sot orgueil ni d'imbécile foi. Crois-tu donc que l'homme a été créé pour faire de l'art ? L'art est une corruption, une déchéance. C'est le salissement de la vie, la profanation de la culture. Il faut jouir de la beauté qui nous entoure, sans essayer de la comprendre, car elle ne se comprend pas elle-même, sans essayer de la reproduire, car nous ne reproduisons rien que notre impuissance et notre infinité d'atomes perdus dans l'espace. Pourtant, répondais-je, il est nécessaire de fixer un but à ces activités, à ces énergies, à ce dynamisme obscur par quoi nous sommes menés. Il est nécessaire de vivre, voilà tout. La vie n'a pas de but, ou plutôt elle n'a pas d'autre but que de vivre. Elle est sans plus. C'est pourquoi elle est belle. Quant aux poètes, aux philosophes, aux savants, qui se torturent l'esprit pour chercher la raison, le pourquoi de la vie, qui l'enferment en formules contradictoires, qui la débitent en préceptes opposés, ce sont des farceurs, ou bien des fous. Il n'y a pas de pourquoi. Et c'était un étonnement que de constater la profession de ces idées, la nouveauté toujours neuve de ces images, l'habileté dialectique de ces arguments pour arriver à ceci toujours. Il n'y a rien que de la beauté inconsciente et divine. Par un reste d'habitudes anciennes, quand il allait dans la campagne, il emportait toujours son chevalet, sa boîte à couleurs, une toile et un pliant. Il choisissait un motif, s'asseyait sur le pliant, bourrait sa pipe, se gardait comme d'un crime d'ouvrir sa boîte ou de piquer son chevalet dans la terre, et là, durant des heures, il regardait. Il regardait les choses, non de cet œil bridé et clignotant qu'ont les peintres, mais de l'œil panthéiste des bêtes au repos dans les prairies. Possédant de quoi ne pas absolument mourir de misère, mal tenu de corps, négligé en ses vêtements, la barbe inculte et les cheveux impeignés, il avait réduit ses besoins au seul nécessaire de la vie. Et comme un buisson qu'éclabousse la boue du chemin et que salit la tombée des feuilles mortes, son âme était pleine de chansons. D'abord, Jeanne consentit à recevoir mes amis. Elle les accueillit avec politesse, mais sans enthousiasme. Eux-mêmes, comprenant que ce n'était plus la même chose, ne retrouvant plus les mêmes habitudes cordiales, la même liberté, un peu débraillée, je dois le dire, de nos réunions, espacèrent leur visite. Ils se sentaient d'ailleurs gênés par le regard froid de ma femme, par sa bouche impérieuse d'où ne leur venait jamais une bonne parole. Vous n'essayez pas de les retenir, quoi qu'il m'en coûtât. Et puis j'avais fini par douter d'eux, du désintéressement de leur amitié. Sans brusquerie, avec un art merveilleux d'observation mesurée et profonde, Jeanne, lorsqu'ils étaient partis, me faisait descendre jusque dans le fond de mon âme. Elle avait tout de suite deviné leurs défauts, leurs vices, qu'elle grossissait, qu'elle exagérait, mais avec une telle habileté, une telle vraisemblance, que ça avait été au bout de peu de temps un retournement presque complet de mes sentiments envers ses amis si aimés. Elle se servait d'un mot échappé dans la conversation pour me montrer des côtés inattendus de leur caractère, de plausibles infamies, de vraisemblables hontes. Je me défendais, je les défendais, mais de plus en plus mollement, car le doute était en moi, salissant ce que j'avais aimé, dévorant un à un mes plus chers souvenirs d'autrefois. « C'est curieux, me disait-elle, on dirait que vous ne connaissez pas la vie. Et c'est moi, moi presque une jeune fille encore, qui doit vous l'apprendre, oh mon cher Paul. Votre bon cœur vous fait voir les gens comme vous-même. Votre sensibilité vous aveugle à un point que je ne saurais dire. Mais ils ne vous aiment que parce que vous êtes riche. » C'est sur mon ami Pierre Lucet que s'exerçait de préférence son esprit de démolition. Oh, paresseux, et voilà tout. Il veut donner à son inexcusable paresse des excuses transcendantes et philosophiques dont vous ne devriez pas être la dupe. C'est vraiment trop de naïveté. Et puis, croyez-vous qu'il soit flatteur pour une femme délicate de recevoir chez elle, de voir à sa table un tel goret ? Oh, sa saleté me répugne, me soulève le cœur, me rend malade. Mais s'il avait de l'amitié pour vous, il aurait du respect pour moi. Il décrasserait ses guenilles, se laverait les mains, ne se tiendrait pas devant moi comme devant une fille de brasserie. Il viendrait de temps en temps, tous les 3 ou 4 mois, déjeuner avec nous, soit, mais s'installer ici, lui et sa haute d'ordure pendant des semaines. Oh, je vous assure que cela m'est pénible. Un jour que Pierre était parti seul dans la campagne, Jeanne me dit « Oh, il faut en finir, mon cher Paul. Je ne veux pas que ma maison se désorganise à cause de votre ami. Voilà une femme de chambre qui me quitte parce qu'elle ne veut pas, et je comprends sa répugnance, faire le ménage de M. Lucet. Mais c'est un vrai fumier, sa chambre, et son linge. Oh, on ne le prendrait même pas avec un crochet. De quoi avons-nous l'air, je vous le demande, vis-à-vis de nos gens? Je vous prie de vous arranger de façon à ce que M. Lucet soit parti ce soir. Ce soir, oui. Vous inventerez, vous prétexterez ce que vous voudrez, mais pour Dieu qu'il parte. Et comme soudain ma figure s'était attristée, Jeanne ajouta « Cela vous gêne, eh bien, c'est moi qui lui ferai comprendre à ce goujat. » En effet, comme ce pauvre Pierre entrait, les souliers pleins de boue, le chapeau tout dégouttant de pluie, ma femme, qui guettait son retour, l'apostropha. Vraiment, monsieur Lucet, vous auriez pu essuyer vos chaussures et penser que mes tapis ne sont pas des garde-crottes. Les domestiques n'ont affaire qu'après vous ici. Ma maison n'est pas une étable. C'est peut-être le tort qu'elle a, répondit Pierre de sa voix douce. Elle serait plus heureuse, mais j'ai compris. Paul est-il là? Non, Paul est à la ville. Non, c'est bien, vous lui direz que je l'aime toujours, ce pauvre Paul. Et quand il aura envie de pleurer, qu'il vienne chez moi, ça lui fera du bien. J'étais derrière la porte du salon quand se passait cette scène cruelle. Je n'avais qu'un mot à dire, qu'un geste à faire, mais je ne le prononçais point et je ne fis point le geste. Je tombai sur un siège anéanti, la tête dans les mains, avec un poids si lourd sur mes épaules que j'eus la sensation que quelque chose de maudit venait de descendre sur moi. Et lui aussi, Pierre Lucet, il avait dit « Pauvre Paul !» quand on l'avait chassé, comme j'avais chassé le vieux jardinier. Bientôt, notre maison devint silencieuse et presque farouche. De même qu'elle avait chassé les amis, elle chassa les pauvres, ses amis inconnus, ses amis éternels de nos révoltes et de nos rêves. Aux misérables qui passent, elle ne souriait plus, comme une espérance, une promesse de joie et de réconfort. Par les routes, par les centres, sur les talus derrière les murs, il s'était dit sans doute la mauvaise nouvelle. Aucun ne s'arrêtait plus devant sa claire façade, autrefois si hospitalière, si inviteuse, maintenant protégée contre l'imploration des sans-pain et des sans-gîte, par l'effroi de deux dogues, gardiens de nos richesses, et aussi par l'insolence des domestiques qui aiment à se venger sur les faibles des duretés de leur asservissement. Jadis, quand je rentrais de la promenade le soir et que j'apercevais sur le coteau notre maison surgissant de son bouquet d'arbres verts, notre maison avec ses fenêtres pareilles à de bons regards, je sentais descendre, couler en moi quelque chose d'infiniment doux. Une paix délicieuse, la conscience d'avoir accompli un devoir d'amour et de solidarité humaine. Aujourd'hui, rien que sa vue m'était comme un remords, et je détournais les yeux de ce toit qui n'arbitrait plus qu'un égoïsme implacable et glaçant. J'avais honte d'elle, et il me semblait qu'en me voyant passer, les gens disaient « Oh, c'est celui qui habite la maison où s'arrêtent plus les pauvres !» Ma mère, âme tendre, cœur de pitié, avait fait de sa maison une sorte de refuge. Elle en avait ouvert les portes toutes grandes aux misères errantes, aux désespoirs qui cheminent vers le crime ou vers la mort. Pour ceux qui ont faim et qui ont froid, il y avait toujours chez nous une table prête, un foyer allumé. Elle visitait les pauvres du pays et soignait les malades. Des malheureux, elle n'exigeait pas qu'ils eussent des vertus héroïques, il lui suffisait, pour les secourir, qu'ils eussent du malheur. « Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, » me disait-elle souvent. « Toutes les douleurs, d'où qu'elles viennent, sont également respectables, et elles ont droit à notre émotion. » Je me souviens qu'elle avait, avec son habituelle et discrète bonté et au grand scandale des honnêtes gens, accueilli, recueilli, devrais-je dire, une fille de la ville chargée du mépris universel, même du mépris des pauvres. Cette fille rôdait le soir dans les ruelles obscures, se livrait pour un sou, pour un verre d'alcool, pour rien à qui voulait la prendre. Le jour, quand elle passait sur les trottoirs, sale, dépeignée, couverte de guenilles puantes, ramassée dans les ruisseaux, volée au gadou des maraîchers, on la chassait à coups de pierre, on lui jetait des ordures à cette ordure. Ceux-là même à qui, la veille, elle s'était prostituée sur un banc d'avenue ou une borne du quai, l'insultaient. Elle ne répondait jamais, ne se plaignait jamais. Elle fuyait plus vite devant les pierres, les coups, les outrages, et, bogée dans quelque trou fétide, elle attendait en dormant que la nuit vînt pour recommencer son inexorable métier. Elle eut un jour un enfant, graine de hasard, qui germa dans cette terre pourtant si infertile de la ribote et de la débauche. Et ce petit être, conçu sur la borne du chemin dans les baisers d'ivrogne qui meurtrissaient comme des coups, elle l'aima avec une frénésie d'indicible passion. Par quel prodige cette femelle inconsciente qui n'avait gardé des sentiments humains que les obscurs et sauvages instincts de la brute originelle, devint-elle une mère admirable? C'est dans la pourriture, dans la décomposition organique, que la vie s'élabore, pullule et bouillonne. C'est dans le fumier qu'éclosent les plus splendides fleurs et les plantes les plus généreuses. Je crois bien que jamais un enfant de riche ne fut choyé, caressé, pourvu de tout, comme le fut l'enfant de cette pauvresse. Et à mesure que ce petit corps, soigné, baigné, parfumé, nourri de bonnes choses, vêtu de chaud lainage et de linge bien blanc, s'emplissait de santé radieuse, de joie et de vie luxuriante, le corps de la mère s'amaigrissait, se décharnait, devenait spectre ambulant, ambulant cadavre, un cadavre qu'animait seulement ce qui lui restait encore de chaleur acquise. Le soir, quand l'enfant gorgé de nourriture et de caresses s'endormait, elle trouvait encore la force de s'en aller offrir du plaisir aux rôdeurs nocturnes et de râler l'amour au fond des bouges avec les passants. Ma mère s'émut à la profonde tristesse de ce drame. Elle fit venir cette fille avec son enfant, l'habilla, la nourrit, lui donna de l'ouvrage généreusement payé, tenta de l'arracher à l'abjection de sa vie. « Je peux pas, gémissait la malheureuse, c'est plus fort que moi, il y a quelque chose qui me pousse, qui me brûle. » Alors ma mère l'attira vers elle, la baisa tendrement au front, et elle lui dit « Je n'ai pas à vous juger, ma pauvre enfant. Dieu seul sait ce qu'il a mis debout dans le cœur de l'homme. » Je me plaisais à raconter cette histoire lamentable à ma femme qui s'indignait. « Une pareille créature ! En vérité, mon ami, je crois que votre mère était un peu folle. Ne voyez-vous pas que de pareilles et incompréhensibles bontés ne sont que des primes données à la paresse, au vice, au crime ? » Et, généralisant ses idées, elle professait « Moi, j'ai horreur des pauvres. Les pauvres sont des brutes. Je ne conçois pas qu'on puisse s'occuper d'eux. » Mais vous êtes socialiste. À quoi bon essayer de vous faire comprendre ce qu'il y a de stupide et d'illusoire dans ce qu'on est convenu d'appeler la charité? Certes, si je rencontrais un vrai malheur, je serais la première à le soulager. Mais je ne veux pas être la dupe d'un sentimentalisme ridicule qui vous porte à trouver intéressant et digne de pitié tous ces affreux ivrognes, toutes ces dégoûtantes prostituées que sont les pauvres. Je pense que la société est parfaite ainsi, les honnêtes gens d'un côté, c'est-à-dire nous, et les criminels de l'autre, c'est-à-dire les pauvres. Et toute votre poésie ne changera rien. Écoutez, ma chère Jeanne, lui répliquai-je timidement, peut-être avez-vous tort de juger les choses ainsi. Il n'y a rien d'éternel dans les sociétés humaines. Les riches d'aujourd'hui peuvent devenir les pauvres de demain, et réciproquement. Je ne fais pas appel à vos sentiments d'altruisme. Je fais seulement appel aux sentiments que vous devez avoir de votre propre sécurité. Il n'est pas bon d'exaspérer le pauvre. Avez-vous remarqué quelquefois le regard de meurtre que vous jette en passant le charretier sur la route et le paysan dans son champ? Et n'en avez-vous jamais frissonné? Tu, interrompit ma femme. Je me moque des charretiers et de leurs regards. Il y aura toujours des gendarmes, n'est-ce pas? Et puis franchement, quand on donne à un pauvre, il faut donner à tous, alors on n'en finirait pas, mon ami. Et soudain, prenant un air découragé, oh, si vous saviez comme vous me faites de la peine avec vos idées. Il ne vous manquait plus que d'être un révolutionnaire. Un soir d'automne au crépuscule, je marchais dans le jardin. Un vent aigre soufflait de l'ouest. Le ciel, chargé de nuages cuivreux, avait des regards mauvais. De la fièvre passait dans l'air. Sur les plates-bandes abandonnées, pas une fleur, sinon quelques tiges mortes et quelques mornes chrysanthèmes de hasard, çà et là brisées, çà et là couchées sur la terre nue. Et les feuilles, jaunies, roussies, desséchées, s'envolaient des arbres, tombaient sur les pelouses, tombaient sur les allées, décharnant les branches plus noires que le ciel. Je ne sais pourquoi, ce soir-là, je marchais dans le jardin. Depuis le départ de mon jardinier et la mort de mes fleurs, je m'étais pour ainsi dire claquemuré dans mon cabinet de travail, et j'évitais de sortir au dehors, ne voulant plus revoir ces coins si vivants de mon jardin où tant de petites âmes me faisaient fête jadis, où j'aimais à m'enchanter l'esprit de la présence toujours renouvelée de ces amies charmantes, maintenant disparues et mortes. Peut-être le bruit dans la pièce voisine d'une discussion entre Jeanne et sa femme de chambre m'avait-il chassé, m'avait-il poussé devant moi jusqu'à un endroit de silence où je n'entendrais plus cette voix colère, cette voix dure, cette voix implacable, si détestée des pauvres bêtes, des pauvres choses, je ne me souviens plus. Je me sentais infiniment triste, plus triste encore que ce ciel, que cette terre, dont je résumais, dont je décuplais en moi à cette heure angoissante de la fin du jour, l'immense tristesse et l'immense découragement. Et je songeais que pas une fleur non plus n'était demeurée dans les jardins de mon âme, et que tous les jours, à toutes les minutes, à chaque pulsation de mes veines, à chaque battement de mon cœur, il se détachait, il tombait quelque chose de moi, de mes pensées, de mes amours, de mes espoirs, quelque chose de mort à jamais et qui jamais plus ne renaîtrait. Je suivais une à une toutes ces petites chutes, toutes ces petites fuites, toutes ces petites en allées de la vie dans le néant, et il me semblait que j'en éprouvais dans mon être intérieur tout entier la commotion physique douloureuse répercutée comme un mystérieux écho de la fibre de l'arbre au nerf de ma chair. On sonna à la grille. Comme je n'étais pas loin, j'allais ouvrir. Et je me trouvai en présence d'un très vieux homme qui portait sur son dos une grosse botte d'églantier. Je le reconnus malgré la nuit qui faisait de l'homme et de sa botte une seule masse d'ombre. « Père Roubilleux ! » m'écriai-je. « Ah, c'est Monsieur Paul ! » fit le vieil homme. « Monsieur Paul lui-même !» Moi, je vous apporte vos églantiers, monsieur Paul, comme tous les ans. Ah, dame, ils sont beaux, beaux, beaux. Je les ai choisis pour vous comme de juste. » Il avait franchi la grille ouverte et déposé à terre son fardeau. Et malgré le vent glacial, le bonhomme était en sueur. Il s'essuya le front du revers de sa manche. « Il y a du nouveau à ce qu'on m'a dit. Paraît que vous êtes marié, monsieur Paul. C'est bien, c'est bien. Oh, et votre défunte mère serait joliment contente. Moi aussi, je suis content. Fallait ça, voyez-vous, pour la maison, pour le pays. Un homme sans femme, c'est comme un printemps sans soleil. » Pendant que le père Houbieu parlait, je songeais que je n'avais pas les 20 francs que je lui donnais tous les ans quand il venait m'apporter ses églantiers. Les demander à Jeanne, c'eût été des questions, des reproches, une scène pénible que je ne voulais pas affronter. J'ai pas besoin d'églantiers cette année, mon père Houbieu, balbutiai-je en tremblant. Mais le bonhomme se récria. Comment ? Cette année, l'année de votre mariage ? Mais c'est pas 50 que je vous apporte ces 100. 50 pour vous et 50 pour votre petite dame. » Et d'un ton que je me forçais de rendre bref, impératif, Non, pas cette année, je vous assure. » Le père Houbieu gémit. « Ah, ben, depuis 3 jours que je suis dans la forêt pour vous trouver les meilleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse à cette heure? Bien sûr que je ne remporterai pas jusqu'à Loudet. Je suis trop vieux, j'aurais plus la force. » En levant les yeux vers la maison, je remarquai que les fenêtres de l'appartement de ma femme étaient éclairées. Mais elle est chez elle, me dis-je, elle ne descendra pas avant le dîner. Cela m'enhardit. Venez avec moi, père Houbieu. Je le conduisis à la cuisine où je lui fis servir un reste de viande, du fromage et une bouteille de vin. Et pendant que le vieux mangeait, je me disais. Voilà un pauvre être qui, durant toute sa vie, a travaillé durement, comme un cheval de ferme. Il n'en peut plus. Son dos est courbé, ses jambes flageolent, ses bras ne peuvent plus étreindre les lourds fardeaux. Chez lui, il n'y a pas un sou. Tout ce qu'il a gagné dans son atroce vie de travail lui a suffi à peine pour se nourrir maigrement, pour ne pas aller absolument nu par les chemins. Et il a élevé 6 enfants, qui triment à leur tour, on ne sait où. Moi, je suis riche, et je vais, tout à l'heure, renvoyer ce vieillard qui, pendant 3 jours, s'est exténué pour moi. Je vais le renvoyer sans un sou, avec ses églantiers que je lui refuse. Je vais le renvoyer pour ne pas attirer sur moi la colère de ma femme. Mais est-ce donc vrai que j'en suis venu à cet état d'incomparable lâcheté? Le vieux mangeait toujours, et assis en face de lui, de l'autre côté de la table, je le regardais. Je regardais son corps usé, déformé par la misère, sa face ridée où la peau, durcie comme un cuir, moulait une ossature décharnée de squelette, et mes yeux s'emplissaient de larmes. Mais est-ce sur lui que je pleurais? Est-ce sur moi? Je n'eus pas le temps de me poser cette question. La porte de la cuisine s'ouvrit et ma femme entra. Oh, cet œil dur, ce pli de mépris qui tordit le coin de ses lèvres, cette figure d'étonnement et de dédain, je les revois encore. Elle passa sans prononcer une parole. Le vieux ne l'avait même pas vu, occupé qu'il était à s'emplir le ventre, tout entier à son extase d'affamé devant la viande et le vin. Je le reconduisis jusqu'à la grille. « Et vos églantiers, père Houbieu ? Il se sentait plus fort d'avoir mangé. Sans une plainte, il les rechargea sur son épaule, et les calant d'un mouvement de rein sur son dos d'octogénaire, il dit, même gaiement, en me remerciant, « Oh, j'arrive non pas de bonne heure à la maison aujourd'hui, 3 lieues de chemin, mais on est leste, allez à l'année prochaine, monsieur Paul !» Quand je retrouvais Jeanne une heure plus tard au dîner, elle me dit simplement « Mais ma maison n'est pas un repère de vagabonds, et je vous serai obligé à l'avenir de recevoir vos amis ailleurs que chez moi. » Chapitre 6. Je fis une longue et dangereuse maladie. La vie refoulée au-dedans de moi-même, privé de ces expansions nécessaires, protesta violemment. Mes organes ne purent résister à ce manque d'air, de chaleur, de lumière, survenu dans mon existence morale et mes habitudes physiques après notre mariage. En proie à la fièvre, je demeurai au lit durant 6 semaines, 6 lentes, interminables semaines. Jeanne me soigna fidèlement, correctement, sans émotion, il est vrai, avec cette ponctualité administrative qu'elle avait dans l'accomplissement de n'importe quelle fonction domestique. Elle mettait à me soigner l'intérêt qu'elle mettait, par exemple, à surveiller la réparation d'un meuble précieux et rien d'autre. On n'eût pas dit que la mort était là, toute proche, qui menaçait une moitié de sa vie dans la mienne. Dans les accalmies de la fièvre, pendant les intervalles du délire, je souffrais cruellement de cette insensibilité, bien que je me rendisse parfaitement compte que Jeanne n'épargnait pas sa peine. Elle passait les nuits à mon chevet, ne voulant déléguer à personne ce fatigant devoir. Étrange et douloureuse sensation, je ne lui en avais aucune reconnaissance. Quand elle se penchait sur moi, je détournais les yeux pour ne point voir cette physionomie d'impassible courage et ce regard de dur devoir. L'inquiétude en était si complètement absente, et il m'eût été si doux de saisir dans ce regard une expression de peur, de bouleversement intérieur, une trace de larmes, enfin quelque chose de fugitif et d'angoissé, par quoi j'eusse senti que son cœur battait, s'affolait, saignait. Même lorsqu'elle m'obligeait, avec des gestes doux et habiles, à boire mes potions, elle restait, malgré soi, impérieuse et dominatrice. Jamais elle n'eut une de ces câlineries dont on berce les malades, ainsi que les petits-enfants. Ses prières conservaient, sous la douceur de la voix, la dureté, presque l'insolence d'un ordre. Souvent le soir, je me souviens, en me réveillant des torpeurs de la fièvre, je l'apercevais au fond de la chambre, en face de mon lit, assise entre les deux fenêtres, devant un petit bureau qu'elle avait fait apporter là. Elle griffonnait des chiffres sur ses carnets, établissait ses comptes de maison, se livrait à des opérations absorbantes et compliquées de caissier. Je ne voyais que son dos et sa nuque inclinés, presque noirs sur le fond éclairé de la tenture murale. Une ligne de lumière rose cerclait les formes si belles, si pures de ses épaules. L'admirable et souple contour de son buste, puissant et délicat comme un bulbe de lys, vaporissait ses cheveux d'un mystère d'auréole. Au sortir des terreurs de la fièvre, j'aurais dû éprouver une délicieuse sécurité à cette présence protectrice de ma femme. J'aurais dû en jouir comme après un passage dans les ténèbres, on jouit d'un paysage de fraîcheur et de lumière. Non seulement je n'en jouissais pas, mais le froissement des papiers dont s'accompagnait cette présence, les notes accumulées, le retournement des pages des livres de comptes et le craquement de la plume m'étaient un intolérable agacement. Jeanne, gémissais-je, ma chère Jeanne, je vous en prie, venez près de moi. et sans se retourner à ma voix plaintive, sa plume entre les dents, elle répondait « Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous boire ?»« Non, je n'ai pas besoin de boire, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin que de vous. » « Tout à l'heure, mon ami, tout à l'heure, j'ai fini, et ne parlez pas, tâchez de dormir. »« Mais je ne puis pas dormir tant que vous n'êtes pas près de moi. »« Si vous saviez comme le bruit de vos papiers, de vos tiroirs, de votre argent m'énerve. »« Il faut pourtant bien que je termine ces comptes. »« Je suis en retard de plus de 8 jours, mon ami. »« Jeanne, Jeanne, mais qu'est-ce que cela fait ?» Que vous soyez en retard pour ces comptes. » Et je sentais des petits sanglots trembler dans ma gorge. « Je suis venu ici, mon ami, pour ne pas vous laisser seul, mais si ma présence vous irrite, j'irai dans ma chambre désormais. Il faut bien que je termine ces comptes. » « Mais ce n'est pas votre présence, ma chère Jeanne, c'est la présence de ces chiffres, de ces comptes. » Alors, elle rangeait ses carnets, ses tiroirs, ses notes, refermait son bureau et venait s'asseoir près de moi, silencieuse et glaçante, le buste raide, les bras croisés, les yeux très loin, la pensée encore plus loin que les yeux. « Oh, ma chère Jeanne, sanglotai-je, souriez-moi, je vous en prie. Vous ne me souriez jamais, jamais vous ne m'avez souri. Un sourire de vous, une bonne parole de vous, une toute petite tendresse de vous. Il me semble que je serai tout de suite guéri. » Toujours impassible, sans la moindre secousse dans son être, sans le moindre sursaut au cœur, elle m'imposait silence. « Chut, il ne faut pas que vous parliez, il faut que vous dormiez. Vous êtes un enfant. » Et il me semblait, à la voir près de moi, immobile, sans une chaleur dans son manque d'insensible divinité, qu'un mauvais ange me gardait. Un jour, c'était pendant ma convalescence, je reposais dans un grand fauteuil devant la fenêtre ouverte de ma chambre. Ma femme était près de moi, assise aussi. Nous regardions le ciel. L'air était charmant, léger, d'une fluidité caressante et chaude. Des souffles de réséda, des parfums de roses lointaines arrivaient jusqu'à nous. Je crus qu'une détente s'opérait dans la chair et dans l'âme de ma femme. Il me semblait qu'une lueur nouvelle avait brillé dans ses yeux. Je lui pris les mains. « Jeanne, m'écriai-je, ah, si vous pouviez m'aimer !»« Mais est-ce que je ne vous aime pas ?»« Non, non, vous ne m'aimez pas !»« Je ne vous aime pas !» « Mais pourquoi dites-vous de pareilles choses? Et que me reprochez-vous? Tenez, justement, j'ai terminé mes comptes de l'année. Eh bien, savez-vous ce que j'ai fait ?»«
J'espérais une action héroïque. »«
Qu'avez-vous fait, ma chère Jeanne ?» demandai-je à le temps. « Eh bien, j'ai fait 15 000 francs d'économie, » dit-elle. Et ses yeux brillèrent comme 2 étoiles. Un sourire angélisa ses lèvres. « Et vous dites que je ne vous aime pas ?» J'avais à ces paroles vivement retiré mes mains des siennes. Mon cœur s'était serré comme sous l'approche d'un dégoût nauséeux. « Eh bien, qu'avez-vous ? » demanda Jeanne. « C'est tout ce que vous trouvez à me dire ?»
Je ne trouvais rien à dire, en effet. J'étais abasourdi comme après un coup, une chute, un évanouissement. Jeanne s'était levée et me regardait durement.
Pour la première fois, j'éprouvais en moi quelque chose de plus que de la douleur.
une frénésie aiguë qui ne pouvait être que de la haine. Et tout d'un coup, la langue déliée, le cerveau fouetté, comme par des ondes de feu, je criais « 15 000 francs! Et c'est pour ça que vous avez pris toute la beauté de ma vie, que vous avez volé aux pauvres leurs morceaux de pain, leur part de joie! Pour ça, pour ça! Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir! Allez-vous-en, je... Vous êtes un misérable !» interrompit froidement ma femme. La secousse avait été trop violente, et j'étais trop faible pour en supporter l'atteinte. Au moment où, par un effort insensé, je tentais de me lever pour chasser ma femme de la chambre, le ciel, la chambre, ma femme, tout autour de moi, s'évanouit dans une blancheur morne de sueur, et je tombais lourdement sur le parquet.